bonjour, bienvenue pour ce tout nouvel épisode du podcast de Moodstep, où nous parlons de savoir-être au travail et de toutes les techniques d'intelligence collective. Comment pouvons-nous mieux travailler tous ensemble? Aujourd'hui, nous allons sur un sujet plus houleux qui est le conflit. Comment résoudre nos conflits? Et pour ça, j'ai invité Thierry Noëlec et nous allons parler ensemble de médiation. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, et tout de suite dans les studios du podcast des Moodstep, Thierry. Thierry.
Bonjour.
Bonjour. Tu es le premier à venir dans mon studio personnel, bienvenue.
Flatté. Merci.
Nous allons parler de médiation avec toi. Nous sommes rencontrés dans un événement à Lorient. C'est pour ça que t'es un régional de l'étape.
Complètement, on peut dire ça.
Et je trouve que la médiation n'est pas vraiment connue en France, ou en tout cas elle n'est pas encore très usitée. Mais avant qu'on parle du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter?
Alors, je m'appelle Thierry Noëlec, j'ai bientôt 60 ans. Je pratique la médiation à titre professionnel depuis bientôt 4 ans. Et puis avant ça, j'ai un parcours, on va dire, éclectique, pour être gentil, parce que j'ai travaillé dans la restauration, dans les loisirs, dans le pétrole, aux États-Unis, en Afrique.
Dans le pétrole.
en Afrique, oui, dans les pétroliers, très intéressant. Et puis j'ai...
Mais tu as une formation de base de psychanalyste, c'est ça?
Alors, je suis, puisque c'est une fonction, c'est pas un métier, je suis psychanalyste, mais je n'exerce plus. J'ai exercé quand j'étais en Alsace.
Mais c'est des compétences qui t'aident dans ce que tu fais aujourd'hui, je suppose.
La psychanalyse en tant que fonction, c'est une manière d'écouter. En aucun cas, en médiation, ça peut être une manière de porter des diagnostics sur des gens qui ne l'ont pas demandé. De toute façon, ils ne sont pas là pour ça. Et même quand on peut repérer, ou quand je peux repérer, mais enfin, je sais que tous mes collègues du fait médiateur ont le même souci, quand on peut repérer des gens qui sont en grave difficulté, le médiateur ne peut pas en aucun cas conseiller d'aller voir quelqu'un, comme on dit. Mm. Non. Ça ne serait pas lui rendre service, ce n'est pas le moment.
D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris. Souvent, les problèmes qu'on rencontre, c'est quand on n'est pas mandaté.
Ouais.
Ça va la confrontation, même si ça part d'une bonne intention.
Absolument. Ça va exactement à l'encontre de ce qu'on cherche.
Ouais.
Voilà. Maintenant, il peut arriver que des gens demandent.
Et comment t'en es arrivé à la médiation?
Donc je rentre, il y a 4 ans, je rentre d'Afrique, j'ai travaillé 6 ans en Guinée équatoriale, où sans être du tout médiateur, je faisais beaucoup l'intermédiaire, puisque j'étais le seul expatrié à parler à la fois la langue des employeurs, l'anglais, et la langue des personnels, et surtout des autorités, l'espagnol. Voilà. J'avais appris l'espagnol.
En Afrique, l'espagnol?
En Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est le seul pays d'Afrique où on parle espagnol.
D'accord.
En tant que langue officielle avec le français. Donc voilà, j'avais un peu, pas du tout l'habitude de la médiation, mais l'habitude de cet entre-deux, qui fait qu'on écoute les uns, on écoute les autres, et on essaye de traduire, alors là au sens propre, et dans la médiation au sens propre aussi, mais de manière un peu plus métaphorique, on essaye de traduire les intentions de l'autre. Et puis en rentrant, je me suis dit, tiens, la médiation, en cherchant ce que je pouvais faire, ça me tentait bien, puisque c'est un métier en développement, où j'ai plutôt des aptitudes, en tout cas à mon avis. Et donc je me suis trouvé une formation à Paris, à l'Institut français de la médiation. Et je me suis mis tout de suite à réseauter, à travailler.
D'où ça vient? Peut-être on va définir ce qu'est la médiation et d'où elle vient, où est-ce qu'elle est née et qu'est-ce qu'elle englobe?
Alors, je ne saurais pas dire exactement où elle est née, mais les pionniers de la médiation, quand même, c'est plutôt les Canadiens, où la médiation est extrêmement utilisée. En France, il y a eu également ensuite quelques pionniers. Moi, j'ai fait 10 ans donc en Alsace, où là, la médiation est connue, parce que, aussi bien en Allemagne qu'en Suisse, limitrophe, la médiation est banale, c'est-à-dire qu'on ne va pas au tribunal si on n'a pas tenté une médiation auparavant. Le canton de Genève fait des formations à la médiation, quoi, dans tous les domaines. Arrivé en Bretagne, c'est un petit peu plus compliqué.
Non, nous, on ne transige pas avec l'ennemi, voilà, ça y est.
la Bretagne, pour les médiateurs, est une terre de pionniers. mais bon, ça prend. C'est pas dans les gènes, c'est pas dans les logiciels. Et j'ai eu, en arrivant, quand je suis allé me présenter auprès d'instances très très importantes du milieu économique, j'ai eu des surprises, quoi, où on me regardait, on disait, la médiation, mais enfin, à quoi ça sert votre métier, je ne comprends pas, un chef d'entreprise de pouvoir tenir sa boîte, etc., etc. J'ai eu droit à tout ça, et puis finalement, on y vient, pourquoi ? Parce que tout simplement, ça coûte moins cher qu'un conflit, c'est très 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 basique, hein, les Suisses avaient calculé il y a déjà au moins 15 ans de ça qu'un conflit coûtait au minimum l'équivalent, parce que c'est français, eux ils ont des francs suisses, l'équivalent de 1000 euros par an et par personne. C'est-à-dire, vous avez une boîte, il y a 30 personnes, il y a un conflit entre deux personnes, le minimum c'est 30 000 euros par an, le coût du conflit. Là-dedans, on a les absences, on a le client qui appelle, on est fâché, on raccroche, on répond « Ouais !» comme ça, là. Bon, voilà, allez, hop, un client perdu. Il y a tout ça. Et les Américains, j'avais publié sur mon site un logiciel en ligne où on rentre les données de son conflit et à la fin, ça donne combien ça coûte. Alors, aux États-Unis, avec les lois des États-Unis, mais alors là, on arrive à des 2-3 000 euros par employé, quoi. Mm. Donc ça coûte énormément cher, alors qu'une médiation, ça coûte...
Donc c'est quoi la médiation ?
Alors la médiation, c'est d'abord un processus volontaire, c'est-à-dire que prenons un cas classique, deux employés dans une PME qui sont en conflit, ce conflit donc coûte de l'argent, le directeur qui est quelqu'un d'intelligent, qui n'est pas complètement fermé aux solutions, appelle le médiateur. Et il va donc inviter les deux personnes à venir en médiation. Les gens ne sont jamais convoqués en médiation. Mmh. Ils sont invités, vous rencontrerez M. Nolek, par exemple, tel jour à telle heure. Vous êtes invités. Ça m'est arrivé une fois qu'il y en a un des deux qui ne viennent pas. Mmh. Ça m'arrive une fois. Bon, bah, la médiation s'arrête. Et autrement, les gens sont... Alors, j'ai régulièrement, ouais, je ne vois pas ce que je viens faire ici, de toute façon, ça ne va pas marcher, ça, on y a le droit. Mais... Dès l'instant qu'ils font l'effort du premier rendez-vous, il y a quand même un petit peu, au minimum, une envie que ça se règle, cette affaire-là, quoi. Donc ils sont invités, ils viennent, voilà. Le premier rendez-vous, c'est toujours un rendez-vous individuel. Donc, on reçoit chacun des protagonistes environ deux heures.
Qu'est-ce que tu cherches dans ces rendez-vous individuels ? Alors, qu'est-ce qui va s'y passer ?
Dans le rendez-vous individuel, on cherche deux choses. On cherche à ce que la personne m'explique sa version du conflit. Mmh. Et en général, quand il m'explique sa version du conflit, j'ai une image de l'autre.
Terrible.
Je me dis, oh là là, c'est l'autre, je vais le recevoir, comment ça va être. Qui se révèle complètement fausse quand je reçois l'autre, bien entendu. Hein? Donc je cherche sa version du conflit et uniquement la sienne, parce qu'on a pu m'en donner une autre. Et je cherche également à lui faire dire si oui ou non il a réellement envie que ça se règle. Voilà, c'est-à-dire que l'adhésion à la médiation doit être quelque chose de complètement volontaire. De la personne que j'ai en face de moi doit vouloir régler.
Mais est-ce qu'en général les gens veulent régler ce conflit ? Alors, et s'ils ne veulent pas, est-ce que tu l'abordes d'une autre manière ? Comment tu fais ?
S'il ne veut pas régler son conflit, je ne peux pas le faire à sa place.
Donc s'il te dit non, c'est fini, c'est fini. Stop, hop.
Mais il peut me dire non de différentes manières. Il peut me dire, par exemple, j'en sais rien, je ne suis pas prêt. Et là, je propose de réfléchir. On se rappelle la semaine prochaine, par exemple. Voilà. Et puis en général, la semaine d'après, il est d'accord. Si c'est un non ferme et définitif, s'il n'en est pas question, moi ce que je veux, c'est mes droits, je veux qu'on me licencie, j'ai eu droit à ça. On l'a dit, hein, ça. Je veux qu'on me licencie et que je prenne mes sous, et puis basta, je ne veux plus les voir. Il n'y a pas de médiation possible. Là, on fera les deux rendez-vous, et puis ça s'arrête là. Vous avez des gens aussi, ça m'est arrivé, qui utilisent le rendez-vous individuel pour faire le point sur leur situation. Et qui, la semaine d'après, se rendent compte qu'en fait, ils ne veulent plus rester dans cette boîte. Ça aussi, ça m'est arrivé. Et on me dit, finalement, vous savez, on a beaucoup, parce qu'on parle énormément, enfin, je laisse parler. Là, c'est un petit peu l'inverse de mon travail là aujourd'hui. Quand je laisse parler, les gens arrivent, on reformule, ils disent bon, vous dites ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans ? Et ils arrivent, et j'en ai eu une l'année dernière, une des personnes m'a dit à la fin, en fait j'ai envie de partir. elle était en conflit tout simplement parce qu'elle voulait partir, mais n'arrivait pas à se le dire.
Compte, ouais.
Voilà.
Donc ça veut dire que quand tu rentres en médiation, tu rentres pas avec un but, tu rentres pas avec... tu viens éclaircir une situation plus que dire « bon, il faut que ça se résolve, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut... »
Non, ça c'est pas possible.
Tu regardes en fait quelle est la situation et tu la rends visible en fin de compte.
Voilà, à eux-mêmes.
Ouais.
À eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous voulez rester dans cette boîte déjà ? Est-ce que vous voulez vraiment régler ce conflit ? Est-ce que vous y êtes prêt ? Parce que contrairement à un jugement par exemple, on imagine les deux mêmes personnes qui vont devant un juge ou au prud'homme, par exemple. Chacune des deux va demander quelque chose.
Mm.
D'accord ? L'employé qui a été licencié va demander de l'argent, et l'employeur qui a licencié va demander à être dédouané de tout ça parce qu'il avait raison de licencier. Chacun des deux demande quelque chose à l'autre. Or, en médiation, c'est l'inverse. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la résolution de ce conflit ? Et non pas qu'est-ce que vous demandez à l'autre ? Parce que ça, on s'en fiche, ça, c'est les prud'hommes, ça. En médiation, vous voulez régler le conflit, d'accord ? Vous apportez quoi ? Là, ça devient un petit peu compliqué, quand même. C'est pour ça que ça ne peut fonctionner que si la personne a envie. Ça fonctionne quand même 3 fois sur 4. 75% des cas, on arrive à des solutions construites. C'est-à-dire que les deux médient, alors après, donc après les deux rendez-vous individuels, s'ils sont d'accord, on fait un rendez-vous proprement dit de médiation... Et là, ils vont s'échanger. Là, on va faire...
Donc là, tu mets tout le monde dans la même pièce.
Voilà.
Donc il y a toi, il y a les deux parties prenantes.
Les deux médiés.
C'est toujours des individus, ça peut être des groupes. C'est-à-dire, ça peut être deux services, deux entités, ou c'est forcément ça, des individus.
C'est forcément... Alors, ça pourrait être des services, mais c'est forcément les individus qui s'expriment. J'ai eu une médiation à 4 personnes une fois.
D'accord.
Une personne contre 3. Et c'est chacun s'exprime.
D'accord.
Ce sont les personnes. Et on aurait pu avoir 2 d'accord et 3 et une pas d'accord contre l'autre. On a réussi à avoir les 4 d'accord qui ensuite ont bien travaillé ensemble. Mais ce sont des personnes. Une médiation de service, ça doit passer par des personnes. Ça, j'ai pas d'exemple où c'était vraiment de la médiation. Un des exemples où c'était de la négociation ou de la reformulation, de la redéfinition d'organigramme et des choses comme ça. Mais pas de la médiation de conflit. Médiation de conflit, c'est une donnée quand même, c'est un moment quand même extrêmement particulier. Un conflit, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en conflit ? Le conflit, c'est quand les mots se cognent. On peut se parler. Et même on s'engueule, hein. Mais il n'y a plus rien qui passe. Les mots jouent des points, et donc là, ça c'est une situation de conflit. Conflit, c'est toujours deux armées face à face, quoi. Et il y a un endroit où ça se heurte. Ça c'est une situation de conflit. Quand on s'engueule, mais qu'on est capable de se réconcilier après et d'échanger, on n'est pas dans un conflit. Pas au sens où on a besoin d'un médiateur. On sait se parler. Dans le conflit, on ne sait plus se parler. L'autre, il peut dire qu'il est midi et ça va exploser. Même s'il est midi.
Ouais.
On ne sait plus se parler, on ne s'écoute plus. Chacun s'écoute soi-même et plus l'autre. Et l'entretien de médiation, ça va être ça. L'entretien de médiation proprement dit, c'est-à-dire quand on réunit les deux personnes, les deux médiés, les deux protagonistes du conflit, ça va être ça, justement, que chacun écoute chacun.
Donc, c'est quoi le levier principal ? Je suppose que tu utilises des outils différents, tu utilises différentes techniques. Quand tu t'es formé à la médiation, tu dois naviguer sur toutes les techniques d'écoute, de communication. Donc, comment tu amènes ces gens qui ne s'écoutent plus à s'entendre ? Est-ce que l'entretien individuel est suffisant pour que...
Ah non, l'entretien individuel définit seulement s'ils sont d'accord pour y aller.
D'accord.
L'entretien de médiation, c'était là où on est tous les trois, quand on est avec deux protagonistes, c'est là où on va essayer de reconstruire,
Quel est ton rôle ? Comment tu amènes cette vraie conversation et cette écoute ?
Alors mon rôle consiste à laisser parler l'un et l'autre. C'est moi qui distribue la parole. Ils n'ont pas le droit de se couper la parole. Ils n'ont pas le droit de faire des gestes, alors à la radio ça passe pas, mais de mépris, voilà.
Dédaigneux,
c'est encore lui qui parle, n'importe quoi. Ça c'est strictement interdit, je recadre immédiatement. Et non pas le droit, pendant que l'autre s'exprime, de compulser des papiers, chercher soi-disant un dossier ou
de tweeter.
Les téléphones sont coupés.
Ouais.
J'éteins mon téléphone ostensiblement, je demande de faire la même chose.
D'accord.
Prendre des notes, tout ça, non, on est dans l'écoute. J'impose. La médiation, c'est pas un moment. Ça peut être un moment extrêmement rugueux.
J'imagine.
C'est pas un monde de bisounours. C'est-à-dire que j'impose l'écoute. Ils doivent écouter. Alors, c'est écoute, respect et ouverture. Les trois mots-clés de la médiation, en dehors de la confidentialité qui va de soi. Donc, c'est l'écoute de l'histoire de l'autre. L'autre n'a pas vécu telle situation où on s'est croisé dans le couloir, il m'a pas regardé, il m'a cogné avec sa valise ou je ne sais quoi. Lui, il n'a pas vécu ça pareil. Comment il l'a vécu ? Je dois donner toute mon attention, enfin, chacun des protagonistes doit donner toute son attention à l'autre pour savoir comment lui a vécu cette histoire-là. Mmh. Je suis rentré dans son bureau, je dis « Ouais, c'est bon. » Et l'autre, elle est tombée en larmes. Mais pourquoi ? Donc chacun doit raconter son histoire à l'autre et l'autre doit l'écouter. Avec respect. On a un déclencheur de conflit, ça va être un rouleau de scotch qui vole. Mmh. C'est ridicule. Et pourtant, la personne a explosé. Pourquoi ? Il faut que l'autre comprenne ça. C'est important. Et l'ouverture, c'est l'ouverture donc à l'histoire de l'autre. Quoi. Donc ça, j'impose. Parfois un peu... Alors, souvent, c'est facile, parce que les gens sont là pour s'écouter. Puis de temps en temps, c'est plutôt rugueux.
Mais quand tu... Quand tu commences cette réunion de médiation, tu vas dérouler l'histoire par étapes, parce que tu poses des questions, c'est toi qui poses le cadre, donc tu poses des questions, ils s'écoutent l'un l'autre sur des sujets bien précis.
Absolument.
Parce que comment tu les amènes à vraiment s'entendre quand on n'a pas vraiment envie de s'écouter parce qu'on est coincé dans notre histoire ?
Alors, en théorie, ils ont envie de s'écouter puisqu'ils sont là.
Oui,
ils ont été invités. Donc, en théorie, ils sont là pour ça. Donc, j'acte ça. Vous êtes là parce que vous en avez envie, autrement c'est pas la peine de venir. Hein. Mmh. Enfin, moi je m'en fiche, je facture, hein, mais à un moment donné, il faut être.
C'est vrai qu'on peut pas changer si on veut pas changer.
Ouais, voilà, quoi. Donc,
ils ont
et c'est pas moi qui vais le faire. Mmh. Moi, une fois qu'ils sont terminés, je m'en vais, hein, et puis je les laisse ensemble. Hein. Donc eux, au contraire, ils vont rester là. Quoi, hein. Donc comment grâce aux entretiens individuels, j'ai composé une histoire. La première fois qu'ils se sont rencontrés.
Shabadabada.
Ouais, mais bien sûr, mais ça compte. Ouais, il y a eu des moments, ils ne sont pas pris en compte.
Tu fais de la thérapie de couple, en fait.
En gros. Presque. Voilà, la première fois
qu'ils se sont rencontrés. Qui se remémorent les bons souvenirs qu'ils ont eus ensemble.
Mais bien entendu, voilà, on passe forcément par là. Et puis, il y a. L'un des deux va avoir telle idée sur un premier clash et l'autre une autre idée. Mm. Ils peuvent avoir un autre événement. On va donc relire chacun des deux événements. Ah, mais j'avais complètement oublié ça. Mais comment ça se fait que tu te souviens de ça ? Mais c'était rien. Et l'autre avait. Donc A doit comprendre pourquoi B a compris ça d'une manière complètement hallucinante, alors que l'autre, ça lui est passé complètement au-dessus de la tête. Mais ça n'a jamais existé.
Parce qu'en fait, on projette tellement de choses en fonction de nos croyances sur l'autre que.
On ne fait que ça.
On ne fait qu'interpréter les situations.
On ne fait que ça. On ne fait que ça, on interprète, tout simplement parce qu'on n'est pas appelé pour faire autrement, et puis parce que l'instinct de survie joue, on est bien obligé d'imaginer les réactions des autres pour caler les siennes, autrement on ne ferait jamais rien.
Mais ça veut dire que souvent on ne pose pas les questions sur qu'est-ce que l'autre a voulu dire quand il a fait ça ou quand il a dit ça. On passe tout de suite à l'interprétation en fonction de notre propre vécu. Ça crée beaucoup d'incompréhension, en fin de compte.
Et même, on voit ça régulièrement, même quand on demande à l'autre qu'est-ce qu'il a voulu dire, parfois il se trompe.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il s'interprète en tant qu'interprétant. Ça devient un petit peu compliqué.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais,
hein. Non, non, mais c'est simple. Du genre, j'ai voulu remettre les choses en place. Mm. Et c'était pas ça du tout. Mm. En fait, il a voulu remettre les choses en place. Non, c'était juste une réaction.
Oui.
Qu'il a ensuite imaginé.
Parce qu'on se réapproprie notre histoire et on lui donne du sens en.
Donc, y compris quand on demande à l'autre qu'est-ce que vous avez voulu dire, il faut être très attentif parce qu'éventuellement, la réponse qu'il va donner n'est pas justifiée
en fait.
N'est qu'une justification. Mmh. Et donc, arriver à lui faire dire qu'elle était vraiment. En fait, ouais, non, j'étais malade de la veille parce que tu m'as dit ça. Ben voilà, ça c'est une réaction. C'est bon ça.
Quel outil, qu'est-ce que tu utilises dans cette réunion? C'est pas réunion le terme. Hein, c'est,
on peut cette... dire réunion, c'est pas...
D'accord.
Tout le monde comprend.
Dans cette médiation, quels outils tu utilises?
L'écoute, point.
Que ça?
Et reformulation. Écoute et reformulation.
Reformulation, et tu leur fais reformuler de l'autre? Ou toi tu reformules?
Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dire? Ah non, pas du tout. D'accord, réexpliquez-moi.
Et pourquoi c'est toi qui reformule? Ça aide l'autre à comprendre l'histoire sous un autre, avec d'autres mots ou...
Alors, la parole est forcément ternaire. Afin d'éviter que les deux protagonistes s'envoient des noms d'oiseaux, ils me parlent à moi et l'autre écoute.
Ah, d'accord.
Je pose les questions. Mademoiselle
Kellen, oui,
voilà. Racontez-moi ça et vous m'expliquez à moi.
Et je pense que ça a l'avantage que j'ai pas les mêmes émotions vis-à-vis de toi que vis-à-vis de.
Voilà. Ouais. Et en même temps, l'autre, je lui ai obligé. L'autre est obligé d'écouter.
Oui,
hein,
écoute.
S'il
n'écoute
pas, je le reprends. Hein. D'accord. Donc il me reformule. Et puis je dis voilà, vous avez entendu la version d'histoire.
Ouais,
hein.
Ouais.
Est-ce que vous entendez ce qu'il dit là?
D'accord.
Non, pas du tout. Je comprends. Alors, est-ce qu'on peut reformuler? Est-ce que voilà. Donc là, je change. Et l'autre écoute à ce moment-là, d'accord. Et il y a un moment, et ce moment est plus ou moins subtil. Il faut y faire très. J'attends toujours ce moment, le moment où finalement ils vont se parler et où les mots ne se cognent plus. C'est-à-dire tout à coup, je deviens inutile.
Ouais.
Ils arrivent à se regarder sans se mépriser, sans être dans la colère. Et ils arrivent à se parler. J'ai fait cette médiation l'année dernière. On était dans les bureaux d'entreprise. On avait un bureau à part, dans un coin. Enfin, voilà, quoi. Hein. Et les deux personnes se sont mises à se parler assez vite, en fait, à échanger, quoi. Et c'est parti, à un moment donné, c'est parti en rigolade. Mais ça a explosé de rire. Et dans les bureaux autour, tout le monde a entendu que les deux personnes qui pouvaient plus se voir, qui se seraient déchirées, étaient en train de rire ensemble. Et quand on est sorti, il y a le directeur qui passait, qui nous a regardé, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait?
Rien.
Rien.
Si, tu fais quelque chose, puisque,
voilà.
Puisqu'en effet, bon, ça dénoue.
C'est pas un cas typique, hein, ça m'est arrivé une fois. Hein. Mais là, on les laisse parler, puisque, à nouveau... Les mots ne se cognent plus, les mots s'échangent. Puisque je réponds par le rire à quelque chose que tu as dit et que tu réponds par le rire à quelque chose que j'ai dit, il y a un échange. Voilà. Et ce n'était pas des rires, ça aurait pu être des rires quand on est en panique ou des choses comme ça. Hein,
de stress
ou autre. Hein. Bon là, non, là c'était des vraies réponses. Quoi, hein. Bah, ça marche. À la limite, on a presque fini. Quoi. Alors évidemment, après, il faut construire. Une fois qu'on a réussi ça, donc 3 fois sur 4, hein, on arrive à peu près à ce stade à réconcilier les gens. Quoi, hein. Une fois sur 4, mais ma foi, il se passe autre chose. Après, il y a un ensemble de réunions, une, deux en général, de construction. C'est-à-dire que comment on va faire pour ne plus tomber à nouveau dans le conflit? Parce que c'est pas parce qu'on a rigolé ensemble l'autre jour que les éléments déclencheurs du conflit sont plus là. On a souvent des problèmes d'organisation, par exemple. Là, un truc horrible dans les boîtes, c'est les échanges de mails, quoi. C'est devenu hallucinant, cette affaire de mails, là, dans l'échange d'un bureau à l'autre. On met tout le monde en copie pour être sûr.
On fait de la politique, on se couvre.
C'est du parapluie à tour de bras. Et puis un mail, bah, quand on est au 15e de la journée, on ne dit pas bonjour, cher ami. Enfin, c'est paf, paf, quoi. Hein. Et puis là-dedans, il y en a un qui prend ça en pleine figure, quoi. Alors, on fait quoi avec ces mails-là? C'est un instrument de torture, ce truc, quoi.
La construction...
Donc la construction, c'est comment on va faire? Voilà.
Et c'est eux qui trouvent la solution comment ils vont
ça
faire?
Ça ne peut être qu'eux. Moi, je ne connais rien à leur métier. Je ne sais pas comment ils font.
Pourquoi ils n'ont pas trouvé la solution avant? Qu'est-ce qui va se passer de différent là pour qu'ils trouvent leur solution?
Ce qui va se passer, c'est qu'ils ont compris que... ils sont en partie responsables, alors non pas du conflit, mais de la solution au conflit. Ils doivent trouver. Ils se sont engagés à trouver. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont. Comment on fait?
À quoi ça ressemble cette.
Ça peut prendre alors plein de formes différentes. J'ai eu une médiation quelque part en Bretagne, hein. Plutôt dans le centre où il ne se passe pas grand-chose, hein, c'est compliqué.
Attention, hein, j'ai mes origines aussi dans le centre de la Bretagne.
Non, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Où deux dames qui travaillaient dans une petite, enfin, comme un petit mini-market, quelque chose comme ça, quoi, hein, qui ne pouvaient plus se voir, ont trouvé un entretien de résolution. En fait, elles se disent, mais alors, en fait, si on s'engueulait, c'est parce qu'on ne connaît pas. Ah, bon, d'accord, enfin, moi j'entends, hein. Mmh. Ok, vous ne connaissez pas, comment vous allez faire pour vous connaître? Ah ben, et elles sont tombées d'accord pour faire du covoiturage.
C'est super.
Comment vous... Moi je ne peux pas inventer ça, quoi. Mmh. C'est... Alors bon, d'accord, vous allez faire du covoiturage. Bon, comment ça a marché? Vous habitez, non, ça allait, c'était... il y avait un kilomètre d'écart, bon. Comment vous commencez? Qui commence? Est-ce que vous allez faire un jour sur deux, une semaine sur deux, un mois sur deux? C'est à vous de trouver ça. Moi, j'essayais, dans ce cas-là, je dis, moi, ok, c'est bien votre solution du covoiturage, mais maintenant, on doit l'écrire de manière à ce que ce soit très, très...
T'accompagnes la mise en,
voilà,
en action.
Voilà. Après, il y en a une qui est malade. Comment vous faites? Ah, tu devais venir me chercher, t'es pas venu, parce qu'attention, conflit, là. Ah bon, donc il faut qu'on s'envoie un SMS, bref, vous êtes en vacances. Est-ce que ça reporte ou est-ce qu'on reprend dans... Comment on fait? Donc tout ça, on l'écrit, et puis très très vite, elles oublient tout ça. Et puis finalement, elles covoiturent comme deux copines à la fin. Et tout ça, on l'oublie. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est qu'elles agissent en adultes et plus en gamines, quoi, dans ce cas-là. Hein. Mais ça, c'est une solution qu'aucun médiateur ne peut inventer, cette solution. C'est forcément les gens qui étaient là.
Oui, là, ça s'est fait assez facilement. Des fois, ça doit bien coincer.
Des fois, ça coince quand on est, par exemple, entre deux cas dans une grosse boîte. Bon, on va se parler. Maintenant, on va se parler. Oh, d'accord, moi, en tant que médiateur. Et comment on va faire?
Quand? À quelle quand heure?
On va faire des... Exactement, on va faire des réunions. Bon, d'accord, quel jour? Bah, tous les lundis à 9h. Okay. Vous arrivez à quelle heure? Bah, à 9h. Bon, d'accord, donc déjà, la réunion, c'est pas à 9h. Quelle heure? 9h15, 9h30? Qui fait l'ordre du jour? Si vous voulez construire un outil, ça doit être un outil fiable. On ne construit pas un ordinateur qui va marcher une fois sur deux, quoi. Ils construisent la solution qui va...
Et toi, tu pousses à ce que ce soit concret, quoi.
Complètement concret. Je ne me paye pas de mots dans ces cas-là. Ça,
c'est Est-ce que le médiateur, aujourd'hui, il est où? Il est forcément extérieur à l'entreprise? Il est en interne? Parce que, en fait, quand tu arrives en étant extérieur, tu es extérieur aussi à tout conflit possible, à tout conflit, même ou à toute prise politique. Ou... Est-ce que les médiateurs sont aussi en interne?
Alors, la posture initiale du médiateur, c'est neutre, impartial, indépendant. Indépendant, j'arrive dans une boîte, j'y suis, voilà. J'y étais pas avant, et puis après le conflit, j'y serai plus non plus, quoi. Hein. Je suis indépendant, j'ai pas de lien avec, je sais pas, la cousine du directeur ou le beau-frère de l'actionnaire principal. Voilà. Si ça devait m'arriver, je ne sais pas comment, mais admettons, ben je confierais cette médiation qu'on m'a demandé à quelqu'un d'autre. Voilà, je suis indépendant. Je n'ai pas d'intérêt spécifique à ce que cette médiation se résolve, se termine par une réconciliation ou pas. Je suis là pour faire mon boulot, et mon boulot, c'est qu'il marche 3 fois sur 4, et une fois sur 4, il ne marche pas.
Voilà. Mais ton mandataire, des fois, il n'a pas cette idée en tête. Il veut que ça se résolve. Il veut qu'il y ait une issue positive.
Je lui explique.
D'accord.
Alors, ça, c'est indépendant. Neutre, ça va être par rapport à la nature du conflit. Sur quoi ils sont en conflit. Imaginons, je ne sais pas, moi, que je tombe sur... je n'ai pas eu ça, mais sur... harcèlement sexuel ou des choses comme ça, ou des choses qui me seraient très particulières, qui me toucheraient mes émotions propres, comme sur du racisme ou des choses comme ça, je ne peux pas avoir en face de moi un des deux que je vais mépriser, c'est pas possible. Donc forcément, je dois être, voilà. Et impartial, c'est sur la manière de les recevoir. On m'a proposé ça une fois, voilà, j'en ai reçu un dans un superbe bureau, à l'écart et tout, puis l'autre, donc on avait passé plus de 2 heures.
Dans un KGB.
Ben l'autre, on propose, écoutez, ben il a un petit peu de temps libre, si vous voulez le recevoir, là, je vous mets le coin de la photocopieuse à disposition, il va avoir 10 minutes. Et non, ça c'est pas possible, je reviendrai demain. Donc ça, c'est, voilà. Donc les médiateurs, on se sent. Alors, maintenant, il existe des médiateurs, notamment dans les grandes entreprises, tous les... toutes les grosses boîtes du genre Orange, Bouygues, France 3, je ne sais quoi, tout ça, il y a des médiateurs partout là-dedans. Enfin, ils ont leur propre médiateur. C'est plus facile qu'il n'y paraît, pour autant qu'il soit repéré en tant que médiateur. Et à ce moment-là, quand il fonctionne exactement comme je peux le faire en indépendant, mais ils sont repérés en tant que médiateurs, y compris par la direction, qui va faire appel à eux. Et il n'y a pas de raison. S'ils sont bons, ça marche. Et en général, ils sont bons. Quoi. Enfin, y a pas de... Moi, j'en ai connu un qui a travaillé à la Poste, j'en connais dans un grand hôpital du Grand Ouest, et qui utilise la médiation. Je connais une DRH dans un hôpital du Grand Ouest qui utilise la médiation. Et au lieu de convoquer les gens pour un entretien avec une lettre d'avertissement, elle leur fait une médiation.
D'accord.
Voilà.
Alors, on est arrivé au bout du temps imparti. Est-ce qu'il y a des choses vraiment importantes qu'on aurait oubliées que tu veux rajouter ?
Sur la médiation, on pourrait en parler des heures. Donc, on fera une deuxième séance.
Calmons-nous. Je vais tout de suite calmer tes ardeurs.
La médiation est un outil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil pour un employeur, tout particulièrement dans les TPE. TPE, TPI.
Oui, ça peut bloquer complètement
la
structure.
Ça coûte une fortune. Et autant une grosse boîte peut se permettre d'avoir un conflit limité dans un service et puis de les étouffer, comme ça, autant dans une petite boîte, c'est impossible. Et la médiation est un véritable outil de gestion du personnel qui calme les conflits. Mais j'ai fait un conflit qui durait depuis 2 ans et en 8 jours, c'était réglé, quoi.
Ah oui,
en 8 jours. Ils étaient tous d'accord.
T'es un faiseur de paix, c'est merveilleux comme métier.
Moi j'ai un beau métier, ça c'est clair. Je ne sais pas si je suis un faiseur de paix, mais en tout cas on peut apporter un peu de connaissance, un peu de compréhension de soi à des gens qui et un petit peu d'ouverture aussi sur l'autre, quoi. Parce qu'en fait, quand on ne se connaît pas, c'est facile de se détester ou de vivre sur des représentations. Quoi. Ce mécanisme-là est à l'œuvre partout, hélas.
Allez, on y va, on se lance avec le questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Accroche-toi à ton siège. Alors, la première question, est-ce qu'il y a eu un échec dans ta vie personnelle ou professionnelle qui t'a énormément appris, qui t'a fait avancer ?
Ça vaudrait un entretien en soi, le nombre d'échecs que j'ai eu dans ma vie. Je crois même que je n'ai avancé que par échec, je n'ai jamais avancé par réussite. C'est mon point commun avec la méthode scientifique, ça, on n'avance que par échec. J'en ai eu plein, par exemple quand j'étais psychanalyste, je m'ennuyais. J'ai voulu être psychanalyste, j'ai fait ma propre psychanalyse pendant 2 longues années, puis après j'ai travaillé pour m'installer. Pour me faire adouber et en fait je me suis rendu compte que j'aimais pas ça c'était bon, faut faire autre chose quoi, c'est dommage hein, j'avais bien bossé quand même pour le faire, c'est embêtant.
Mais qu'est-ce que ça t'a appris?
Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris ce que j'aimais pas.
Ce qui est déjà par élimination.
Juste écouter les gens parler, ça m'intéressait pas trop. Les écouter parler et les amener à trouver une solution.
Oui, puis il y a un autre élément là, c'est que dans la médiation, il y a la relation.
Oui,
et là. Que t'as pas forcément dans.
Pas de la même manière.
Ouais.
Pas de la même manière. Ceci dit, c'est une discipline que j'aime bien, mais la psychanalyse, mais bon, j'étais pas fait pour ça.
D'accord.
Voilà, j'aime bien avoir du résultat rapide, concret, tangible.
Bon. Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil que tu as étudié et qui t'a particulièrement servi, fait avancer?
J'ai pas d'outil particulier, j'ai des collègues qui ont utilisé la CNV, l'énéagramme, toutes ces choses. Je m'en tiens à ma capacité d'écoute, qui est inhérente à ma formation, notamment de psy. Et à la reformulation. Ça c'est la base. Maintenant, comprendre toutes les implications psychologiques de l'un ou de l'autre, je considère que c'est pas mon métier. même si parfois c'est criant, hein, des fois.
C'est marrant, puisque ton premier élan avec la psychanalyse était ça. Et en fait, là...
C'est pas utile, les gens sont pas là pour ça.
Et moi, ils sont pas là pour ça, mais tu aurais pu garder cette envie de comprendre les méandres du cerveau et de...
C'est pas une envie, ça, c'est... Ça relève pas de l'envie. Ça relève de l'analyse. Mais je suis pas en position d'analyse.
Mais je te parle pas dans ton métier, de façon plus générale.
De façon plus générale.
Tu aurais pu garder ce goût.
Ah, le goût, je l'ai, mais j'éteins le bouton.
D'accord, ok.
Autrement, on peut pas avoir d'amis.
Alors, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Manager ?
Eh oui.
Un bon manager. Un bon manager, qu'est-ce qu'il fait de bien ? Je pense qu'un bon manager est là pour dire les règles et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Meilleur, plus le cadre est connu et accepté, et mieux ça se passe. J'ai une métaphore que j'aime bien, parce que je vois que tu as des tableaux là. J'aime beaucoup l'art contemporain. Un petit peu. Heureusement que je ne suis pas riche, autrement je claquerais tout mon pognon là-dedans. Et les tableaux contemporains, les plus fous, les plus débridés, les plus hallucinants, ont tous quatre angles droits, toujours. Quand le cadre est solide, quand il est connu, à l'intérieur de ce cadre, on peut se lâcher tout ce qu'on veut. Quand le cadre est mou, quand des fois c'est comme ci, d'autres fois c'est comme ça, et puis on ne sait pas, et demain peut-être que le cadre va changer, alors là, il se passe n'importe quoi. Je crois qu'un bon manager, il sait définir le cadre du tableau.
D'accord, intéressant. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu pourrais nous conseiller à la lecture ?
Ouais, alors, il y a un livre qui m'a particulièrement marqué, mais qui n'a rien à voir avec le management.
Non, mais c'est parfait. D'accord. Non, c'est parfait.
Le livre que j'ai dû arrêter de lire après pendant longtemps, parce que tellement ça m'avait plu, c'était La disparition de Georges Perec. La disparition de Georges Perec, c'est ce qu'on appelle un lipogramme en E, c'est 250 pages, sans une seule fois la lettre E.
Ah !
Et donc
c'est pratiquement impossible. La lettre E, elle est partout, quoi.
Il l'a fait.
Ah, ça doit faire un langage très particulier.
Très particulier. Et cette absence magnifie en fait la lettre E. Perec racontait qu'il faisait des rêves, des cauchemars où il trouvait plein de fautes avec des E partout dans son manuscrit. Enfin, voilà. Et ce qui n'est pas là prend toute l'importance. Et voilà, ça m'a empêché de lire autre chose pendant longtemps après.
Et ce qui n'est pas, ce qu'on enlève, nous oblige à explorer d'autres manières,
manières de faire.
Par son absence.
Voilà, je n'ai pas cette possibilité-là, absolument.
Donc
comment je fais ?
Je réinvente.
Je dois
réinventer. Et je découvre d'autres sonorités,
d'autres mots.
Même ça ressemble à autre chose quand il n'y a pas de E.
Ouais. Bon. C'est même, rien qu'une seule phrase, c'est compliqué.
Ouais. Et la dernière question, c'est quelle citation pourrait définir ton action ? Je lis ça comme ça. Une citation qui t'inspire, soyons.
Alors, une citation qui m'inspire.
Ah, il fouille dans sa poche.
Il est tombé dessus hier par hasard.
Ah, c'est pas mal. Il sort de son portefeuille.
Ouais. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Ah, c'est marrant, on me l'a dit il n'y a pas longtemps.
Albert Camus.
Mal nommer les choses.
C'est ajouter au malheur du monde.
Mais il y a très peu de temps.
Oui. J'ai trouvé ça hier, je dis tiens, j'aime bien ça.
Oui, c'est encore un hasard de fou ce que tu es en train de me dire. Ah, c'est incroyable. C'est encore, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça. Et il y a des hasards, il y a des échos. C'est drôle.
Des synchronicités.
Non, mais c'est très drôle. Oui. Ok, et tu le sors de ta poche
Oui, parce que j'ai trouvé hier, j'ai noté, parce que je dis ça me plaît bien, il faut que je m'en serve, ça, je sais pas où, mais
bah,
tiens, voilà.
Eh bah, écoute, c'est parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? T'as un site internet ?
Thierry Nolec Médiation.
Ok, qui sera dans les commentaires, ou en tout cas en description de ce podcast sur iTunes, SoundCloud et le blog Woodstep. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
que le monde aille mal, comme ça j'aurais beaucoup de travail.
Oh non, moi qui te... Oh non. Et là, tu sors ton rire diabolique en plus. Et il se permet de tirer la langue quand même,
non? Mais oui, bien sûr.
Non. Bah, non, je peux pas, je peux pas. En fait, parce que normalement, j'exauce tous les rêves.
Oui,
ah, mais là, je ne peux pas. Ma baguette magique ne marche plus. Tiens, regarde.
Alors, on va le dire autrement que tous les managers, les directeurs, qui ont des difficultés, osent m'appeler. On va dire ça.
Ok.
Osent me dire oui, aussi. Ok, j'ai peut-être pas pris la bonne solution. Alors, je vais appeler le médiateur parce que là, maintenant, ça suffit. Ça serait bien. Voilà. Ouais. Parce que les conflits, ils existent. Hein. On n'a pas besoin de les inventer.
Ouais, partout. Voilà. Et ben merci beaucoup d'être venu jusque dans mon super studio.
Magnifique.
Et je te souhaite une très bonne continuation et que bien sûr la médiation s'étende et se développe en France et notamment en Bretagne.
Et notamment en Bretagne.
Pour que t'ailles partout aider les gens à s'entendre.
Merci.
Bon, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du podcast Moodstep. La réflexion que je me fais après cet entretien, c'est que on étudie plein de méthodes, de techniques, on développe plein de processus et souvent la simplicité de juste s'écouter, d'arrêter de projeter sur l'autre et de poser les bonnes questions, d'essayer de comprendre l'autre, semble être un point de dénouement de tellement de situations que cette simplicité, parfois j'ai l'impression qu'on l'oublie. Donc cet entretien m'a vraiment rappelé ça. Normalement on se retrouve la semaine prochaine, mais voilà, aujourd'hui je pars sur les routes de France et j'ai peut-être fait une manipulation un peu trop périlleuse sur mon ordinateur portable. Donc si j'arrive à le réparer, rendez-vous mercredi prochain. Sinon, eh bien, je ne sais pas, parce que je voyage pendant quelques semaines, donc allez, on va voir ce que la vie nous réserve. J'espère sincèrement vous retrouver mercredi prochain. Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt.